45 minutes dans 10 secondes. J'espère que vous passez un bon mardi matin. Merci de le faire en notre compagnie. Mon nom, c'est Marceau. Je suis avec vous jusqu'à 10h. À partir de 10h, ce sera le point de max. Midi, Jeff avec On en jase, Antonine Yegarini, Pascal CV qui seront là avec lui pour l'accompagner. Et 14h, Denis sera là avec toute son équipe. Il y a Véro. Et si je ne me trompe pas, Audrey n'est pas là. Donc, ce sera Nathan Meilleur qui fera partie des discussions. D'ailleurs, il y avait des belles discussions hier. J'étais dans ma voiture puis j'avais le goût de participer. Les essayer, c'est les adopter. C'est moins 1 degré sur Québec aujourd'hui, c'est nuageux. 40% de probabilité d'averse en matinée. On parle bien sûr d'averse de neige, maximum de plus 4 degrés. Ce soir, ce sera nuageux avec un minimum de moins 3. Et demain, mercredi, ce sera nuageux avec peut-être un peu de soleil en après-midi, maximum de plus 1.
Il y a encore du monde poigné dans le trafic à Québec. Les deux ponts direction nord, Capitale-Ouest encore un petit peu entre Henri Bourassa et Laurentienne. Et sinon, Henri IV Sud vers le... Henri IV Sud hauteur Chauveau. Dans l'actualité, je vous parlais un petit peu plus tôt de possible gestion de crise chez le Parti libéral du Québec et c'est Nicolas Lachance du Journal de Québec qui nous est arrivé avec des détails et nous mentionne que le départ soudain et immédiat de la directrice de cabinet de Marois Risky pourrait plonger le PLQ dans une profonde crise. On a obtenu du côté du journal une missive de Marois Risky qui a envoyé aux élus libéraux. Nous souhaitons vous informer que Mme Geneviève Hintz, directrice de cabinet, n'est plus à l'emploi du cabinet de la chef de l'opposition officielle et ce, à compter de maintenant. C'est le choc au PLQ. C'est très grave, a confié une source libérale à notre bureau parlementaire. Mme Hintz, c'est une proche de Pablo Rodriguez. Elle était à Ottawa avec le nouveau chef du PLQ. Elle a été nommée directrice de cabinet de la chef parlementaire Marois Risky à la suite de son élection parce que Pablo Rodriguez n'est pas élu. Fait qu'on avait comme pris cette personne-là qui était proche de Rodriguez puis on l'a fait entrer dans un rôle important au PLQ via ce poste-là. Et on nous dit qu'un différend entre Geneviève Hintz et Mme Risky serait survenu à la fin de la semaine dernière. La chef libérale par intérim aurait elle-même pris la décision de se séparer de Mme Hintz et de la remplacer par Isabelle Laure. Ni le chef Pablo Rodriguez, ni les officiers du parti, ni les membres n'avaient été informés. Depuis, c'est la crise. Les rumeurs courent depuis tôt mardi matin. L'avenir de Marois Risky à titre de chef de l'opposition officielle est incertain. Une rencontre est d'ailleurs prévue entre Pablo Rodriguez et Marois Risky ce matin. Imagines-tu comment le Parti libéral se tirerait dans la jambe?
Mais pourquoi?
Ben, à tasser Marois Risky.
Pourquoi? Les libéraux foutent rien depuis des semaines et des semaines, puis ils trônent au sommet des sondages en deuxième position.
Mais c'est ta meilleure!
Entièrement d'accord avec toi, c'est elle qui devrait être chef du Parti libéral du Québec.
Mais c'est parce que la problématique, c'est que si Pablo Rodriguez dit « T'as congédié ma chef de cabinet », donc,
sans me le dire,
fait que là, on s'entend déjà là en partant, ça marche pas entre les deux. Ouais. Dehors, Risky, je mets quelqu'un d'autre à ta place, ils vont être 15 à 5.
Mais ça va être encore pire. À moins qu'il ramène Marc Tanguay, mais je suis pas sûr que ça l'intéresse. Là. Il a de l'air d'avoir une belle liberté, M. Tanguay.
Oui, puis là, tu sais, il critique en santé, fait qu'il y a de la job en masse, là, on s'entend. Mais non, mais c'est parce qu'ils vont être. Ils vont être plusieurs à dire ben, OK, mon Pablo, ciao, bye, parce que. C'est pas tout le monde dans les députés qui sont là qui avait appuyé Pablo Rodriguez. Ouais. Là. Donc, ça va suivre. Là. Alors, est-ce que Pablo Rodriguez, à titre de chef du Parti libéral, aura jamais fait son entrée à l'Assemblée nationale? Ça se pose la question.
Ouais, ça serait tout un revirement de situation. Tout d'un coup, Marois Risky, elle veut plus s'occuper de ses enfants puis elle décide de rester chef.
Oh!
Hein?
Ouais, parce que là...
comme un film.
Parce que là, elle se dit le PQ est en train de se planter avec son livre bleu.
On se croirait des feux de l'amour. Tant de revirements. Max?
Le premier budget Mark Carney qui a été adopté hier soir, c'est donc dire qu'on ne retournera pas en élection fédérale au soulagement de tout le monde, mais à la surprise d'à peu près personne. En plus des 170 élus du Parti libéral du Canada, la chef du Parti vert, Elizabeth May, qui a voté en faveur du budget, 168 votes contre ont été enregistrés provenant des conservateurs, des bloquistes et des néo-démocrates. Il y a deux membres du NPD, un conservateur et le député Matt Gineer, qui a annoncé son départ, lui, du PCC et de la politique il y a deux semaines, qui sont abstenus, puis c'est ça qui, ultimement, a permis au budget d'être adopté. Et l'automobiliste qui a foncé délibérément dans la centrale de police de Québec sur Louis XIV hier va comparaître ce matin. On parle de chef d'accusation pour tentative de meurtre, menace de mort envers des policiers, conduite dangereuse et méfait de plus de 5 000 $. Il y a plusieurs médias qui nous rapportent que il y aurait récemment cet individu-là de 32 ans été en contact avec des intervenants en santé mentale, donc vraisemblablement, ça allait pas super bien entre les deux oreilles. Reste à voir à quel point on aura des détails là-dessus dans les prochaines heures. Au sport, défaite de 4-3 en tir de barrage face aux Blue Jackets de Columbus pour le Canadien hier. Oliver Kapanen, Josh Anderson et Lane Hudson qui ont marqué 20 arrêts pour Jakub Dobesch. Prochain match contre les Capitals, c'est au Centre Bell jeudi. Dans la NFL, victoire des Cowboys de Dallas 33-16 sur les Raiders de Vegas.
8h50, Marc-Antoine Reed est en studio. Il est planificateur financier pour IG Gestion de patrimoine. Marc-Antoine Reed, salut!
Salut!
Très content de t'avoir avec nous autres en studio. Aujourd'hui, on parle de changement de propriété.
Ben oui, on est sur une petite séquence parce qu'on parle des différents événements d'une vie puis ouais. d'un angle financier. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, j'ai parlé de l'achat d'une première maison. Donc là, si on se pousse un petit peu plus loin dans la ligne du temps, changement de propriété, ça arrive fréquemment. Puis, c'est un moment charnière.
J'ai des chums qui changent de propriété aux 5 ans.
Ah
ouais? Oui. Aux 5 ans, puis ils se sont toujours enrichis jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir une valeur sûre, rester dans leur maison pendant 20 ans, 30 ans, comme nos parents faisaient. C'est une belle façon aussi de s'enrichir. Mais ça a l'air que c'est payant, changer régulièrement de maison.
Bien, changer...
Le problème étant que si tu en achètes un autre,
c'est ça, exact. C'est ce que j'allais dire. Donc là, oui, on fait un profit sur celle qu'on vend, mais celle qu'on achète, on la paye plus cher. Donc là, moi, ce à quoi je veux amener à faire réfléchir les gens, c'est de dire quel genre de décision on prend à ce moment-là, puis est-ce qu'on met toute l'équité? Vous savez, l'équité, c'est bon, la valeur de la maison moins la dette qui est dessus, l'hypothèque. La plupart des gens ont une hypothèque. L'équité, est-ce qu'on la met toute sur la nouvelle?
Sais-tu ce que je te dirais, moi?
Oui, ça dépend.
Ça dépend.
Exact.
T'as pogné le langage de Marc-Antoine Reed.
Ça dépend. Malheureusement, en finance, on aimerait ça être tranchant. Ça dépend tout le temps. Puis ça amplifie, si on veut, l'importance d'être bien conseillé. La personne qui va vous poser des bonnes questions va regarder vos critères à vous puis différentes choses pour arriver à la conclusion ou la recommandation qui est bonne pour vous. Tu sais, c'est plutôt rare que toutes les décisions financières, au fur et à mesure que les opportunités se présentent, ont été optimisées. En fait, quand je regarde un dossier, ça n'arrive jamais. Je dis souvent, mais il ne faut pas brasser trop le passé, on ne peut pas changer grand-chose, mais il faut faire les meilleures choses à partir de maintenant. La vente d'une maison, c'est une opportunité, dans plusieurs cas, de rattraper un petit peu ou de corriger un petit peu les erreurs d'optimisation du passé dans plusieurs cas. Puis je vais vous donner un exemple. Puis avant ça, je reviens sur l'importance du conseil. J'ai envie de commencer ou de avant d'aller un petit peu plus loin, du moins de parler un peu, rappeler la conclusion de la chronique. Ce que j'aimerais que les gens retiennent, oui, c'est des éléments de réflexion, mais c'est de dire, si vous planifiez changer de propriété, consultez un planificateur financier de confiance pour bien planifier la chose, bien réfléchir à la chose, puis optimiser votre décision, la façon de faire, parce que oui, on peut faire beaucoup d'argent. Puis beaucoup d'argent, c'est pas nécessairement avec le profit sur la sienne qu'on va redépenser sur l'achat de l'autre.
Ouais.
Mais c'est quel genre de décision on va prendre quand on va le faire. Puis je vous donne un exemple fréquent pour qui arrive fréquemment pour l'illustrer. Un couple a acheté une propriété il y a 10 ans. Ils ont resté 10 ans dedans. Tu parlais à tes amis 5 ans. Là, mon exemple, c'est une dizaine d'années. À ce moment-là, ben, ils ont fait leur calcul, ça arrivait, mais tu sais, il n'y avait pas des surplus énormes. Puis l'arrivée des enfants quelques années après a contribué à ça aussi avec des dépenses. Ils n'ont pas réussi à mettre beaucoup de sous de côté, là. Un petit peu dans les régimes enregistrés d'épargne études à peine, un petit peu dans leur REER. Puis le reste, ça a balancé, puis ils ont vécu une vie convenable, puis des bons moments à famille, mais tu sais, ils n'ont pas flotté dans les sous, puis ils n'ont pas épargné de façon énorme. Donc, peu de REER, peu de REER. Par contre, la valeur de la maison en 10 ans, elle a doublé. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. L'hypothèque, elle a diminué. Les salaires qui, initialement, étaient un peu serrés, puis quand les enfants étaient jeunes, qui demandaient plus de sous, bien, il y a eu peut-être 2 promotions par membre du couple, puis de l'augmentation suite à l'inflation. L'hypothèque, elle a diminué, elle est restée la même. Fait qu'aujourd'hui, ils ont une situation financière différente. Le réflexe que plusieurs auraient, c'est de prendre l'équité sur cette maison-là puis la mettre sur la nouvelle, qui, règle générale, va être un petit peu plus grosse, tu sais, va être un petit peu plus cossue, là, pas tout le temps, mais souvent, parce que pour différentes raisons. Un, c'est facile à faire. Deuxièmement, c'est souvent ça, puis là, je ne veux pas frapper sur la tête de personne, mais un conseiller hypothécaire, lui, ça conseille sur l'hypothèque, ça ne regarde pas une vue d'ensemble de la situation du client. Puis même moi, là, tu sais, qui est proche de la théorie puis qui l'applique, j'ai quand même hâte de plus n'avoir d'hypothèque. mais c'est souvent un piège, si oui. on veut, ou pas la chose optimale.
Sais-tu quand est-ce que j'ai réalisé ça? Je pense que je commençais à radio, là, peut-être entre 2006 et 2011. Puis à un moment donné, ils ont parlé des hypothèques, des grosses maisons et des célébrités. Puis ils ont tombé sur la maison de Céline Dion à l'Île Bizarre.
OK.
Et là, on disait que Céline Dion avait une hypothèque.
Ah ouais.
Mais écoute, là, j'étais là, mais OK, man, je veux dire, c'est une artiste internationale, elle est multimillionnaire, ouais. là, c'est, elle n'est pas milliardaire. Comment elle peut avoir une hypothèque? Puis là, il y avait un planificateur financier qui m'avait dit, oui, mais regarde le coût d'intérêt pour ce qui est de l'hypothèque. C'est un 3%,
ouais.
mais elle prend son argent, elle s'en va placer son argent ailleurs.
Elle fait bien plus.
Elle a un 3. Faible taux d'intérêt pour ce qui est de son hypothèque. Fait que c'était avantageux pour elle d'avoir une hypothèque. Fait que les riches ont des hypothèques, là.
Ouais. René était très bon poker à donner ça à René.
Il a sa fleur ici.
Ça,
non, mais c'est une bonne. Absolument, c'est une bonne observation. Pensez-y, là, tu sais, qu'est-ce qui va payer votre retraite? Qu'est-ce qui va payer votre indépendance financière?
Les paris sportifs.
Vegas!
Bon, la qu'est-ce maison. Qui va payer? Bon, il y a un petit peu de revenus, la régie des rentes, la pension ouais. de sécurité de vieillesse. La maison. Peut-être pas. T'sais, la plupart des gens que je rencontre, même si les enfants ont quitté la maison, souvent sont attachés à leur maison. Ça ne produit pas de revenus, une maison, si tu restes dedans.
En
si
effet.
Tu veux que ça finance ta retraite, il faut que tu acceptes la vente, déménager dans plus petit. Puis si tu trouves un loyer, tu as quand même un frais à payer. Donc, ça prend un actif qui va générer un revenu. La régie des rentes et la pension de sécurité de vieillesse, pour la grande majorité des gens, c'est pas suffisant. Et l'actif qui va générer un revenu, pour certains, ça peut être un bloc à logement, mais pour la plupart des gens, ça va être leur épargne, leur REER, leur CELI, puis l'argent qu'ils vont avoir mis de côté. Donc, si tu focuses à rembourser très vite ton hypothèque, tu ne construis pas dans la majeure partie des cas un actif qui va générer un revenu puis qui va t'aider pour la retraite, à moins que tu acceptes de le vendre puis diminuer, ce qui est, règle générale, difficile à faire. Fait que qu'est-ce qui est à considérer à ce moment-là? Puis je veux pas généraliser, encore une fois, mais qu'est-ce qui est à fortement considérer? Bon, c'est sûr, s'il y a des mauvaises dettes, on met pas toute notre équité sur la nouvelle maison. On rembourse les mauvaises dettes avec l'équité, puis on fait une hypothèque un petit peu plus grosse. Mais outre ça, à partir du moment où on a 20% de valeur, tu sais, de la nouvelle propriété, bien, on peut considérer plein de choses comme un rattrapage REER. J'ai parlé, puis je vais faire référence aussi au mois de janvier pendant la période REER, mais il y a plusieurs... Bon, une cotisation REER, ça donne des retours d'impôts, mais au-delà de ça, il y a plusieurs programmes crédits sociaux fiscaux qui sont sur le revenu familial net. Si on fait un rattrapage REER, donc une bonne somme en REER, bien là, le revenu familial diminue de beaucoup. Puis dans certains cas, on peut aller chercher des retours d'impôts en incluant les crédits sociaux fiscaux de 50, 60, 70
okay.
Et on peut faire des bonnes choses avec ça. Donc là, j'ai parlé à quelques reprises des régimes en marché d'épargne études. Dans mon exemple, les gens ont des enfants, ils n'ont pas cotisé au maximum. C'est 30% de subvention qu'on reçoit directement quand on cotise. Ça fait qu'on peut cotiser 2500 par année puis rattraper un 2500 du passé. Fait que on peut avec ça là, maximiser des choses ou des décisions qu'on n'a pas, en n'étant pas sensibilisé ou guidé ou en s'en occupant un petit peu moins ou des fois parce qu'on ne pouvait pas, qu'on n'a pas optimisé dans le passé. On peut rattraper ça pour faire travailler l'argent puis différents programmes ou la fiscalité pour nous. Donc, c'est à considérer. Encore une fois, je ne veux pas généraliser. Ça dépendrait de quoi, ces conseils-là, sans aller dans tout le détail. Une des choses, c'est ça, tu as parlé de Céline, ça dépend du profil d'investisseur. Si Céline avait été très prudente, ou les gens qui l'avaient guidée, ou son conjoint avait été très prudent dans leurs décisions financières, puis qu'il ne peut pas voir leur somme reculer, tu es mieux de sauver 4% sur ton hypothèque que de placer ton argent dans un dépôt à terme à 2%. On s'entend?
C'est
là,
clair.
Donc là, ça dépend de ton profil d'investisseur. Qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher à long terme comme
Mais
rendement?
Bien placé, tu es capable d'aller chercher entre quoi? 6, 8, 9?
Ça dépend du profil du client. Là, présentement, les rendements sont extraordinaires.
Ouais.
Là, sur des périodes là, de 1 et 3 ans, on a des super beaux rendements. Ouais. Là, largement au 10 pour la plupart des profils. T'sais, dans certains cas, ça frôle le 20. Mais ça dépend encore une fois du profil. Donc, dans le fond, ça dépend à quelle la personne quel genre de recul va la faire paniquer et sortir du marché. Si tu fais un cycle économique complet et tu utilises la bonne méthode, tu vas faire de très bons rendements.
Ouais, c'est ça. Vague, la façon dont je sais, moi, je te l'ai dit, j'ai un conseiller financier pour 90 % de mes affaires, puis je m'amuse à la bourse pour 10. Là, je suis rendu à 20, là. Mais 10-20, je navigue à la bourse, puis j'y vais pas aveuglette. J'ai pris un cours pour savoir qu'est-ce que je faisais et tout ça, puis ça va relativement bien. Mais n'en demeure pas moins que la majorité de mes placements, c'est un professionnel qui s'en occupe. Puis ça fait en sorte que je dors bien.
Ben oui, c'est ça, exact. C'est, ça t'assure de ne pas déroger d'une méthode qui est fructueuse qui est gage de succès, là.
Est-ce que le fait d'avoir toujours une hypothèque aussi, ça peut servir de sécurité pour les gens avec la marge de crédit hypothécaire, ça arrive de quoi à maison?
Ben, oui et non, parce que tu pourrais avoir pas d'hypothèque, puis ta marge de crédit hypothécaire...
l'aurais ailleurs,
t'sais, non, ça. Mais tu l'aurais pareil. Il ouais. y en a beaucoup qui ont une marge à zéro, qui n'ont pas d'hypothèque.
Ah, c'est vrai!
J'amène quand même certaines réflexions. Là. C'est sûr que si tu es à la retraite, puis tu as un paiement hypothécaire à payer... ça amène une dose de risque de plus. Il faut que tu génères plus de revenus, probablement avec tes placements, pour rencontrer tes obligations. Par contre, est-ce que ça doit absolument être réglé à la retraite, l'hypothèque? La réponse, c'est non. Pensez-y, il y a plusieurs gens qui sont à la retraite qui ont un loyer à payer. La personne qui est propriétaire de sa maison, qui n'a pas d'hypothèque, elle n'a pas de loyer. Là. C'est pas, la personne qui est en loyer, c'est pas, tu ne peux pas être indépendant financièrement et puis prendre ta retraite si c'est le cas. Fait que ça dépend. L'autre affaire, c'est que si tu as fait une série de décisions qui ont optimisé l'accumulation de ton actif, puis que tu as un gros CELI à la retraite, puis qu'il te reste une hypothèque de 100 000, puis tu n'en veux plus d'hypothèque, ben, tu peux prendre ton CELI puis tu en rembourses. Ouais. Tu as réglé le problème. Puis si c'est un 100 000 que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas fait les bonnes décisions ou fait les bonnes choses, c'est toujours bien 100 000 de plus.
Dans quelles circonstances deux retraités vont réhypothéquer leur maison alors que la maison est payée? C'est pour continuer à vivre dans cette maison-là?
Oui, c'est ça. Je te dirais dans une circonstance où est-ce que ça ferait partie. Mettons, il y a des gens, puis toutes les visions sont bonnes. Il y a des gens qui disent, ben tu sais, moi, tant mieux s'il en reste pour les gens que j'aime. Je les ai aidés à se construire dans la vie, mais tu sais, l'argent ou le capital que j'ai construit, je vais le dépenser complet. Ce serait un exemple. On pourrait passer à travers les placements, puis après ça, l'équité de la maison. Dans d'autres cas, c'est pas nécessairement des choix, là. Les gens, mettons une retraite standard, on dépense plus les 10 premières années, on est plus actif, on voyage plus, les gens qui aiment voyager, du moins. On est plus actif. Après ça, ça dépense un peu moins, puis souvent, le pattern par la suite, là, c'est que ça peut remonter de beaucoup si tu as besoin de support ou de soins. Là, ça coûte une fortune, là, fait que là, souvent, c'est l'équité de la maison qui peut servir de sécurité pour cette période-là de la vie qui arrive à certains, là, c'est-à-dire des loyers à 6-7 000 $ par mois. C'est fréquent. Là,
mais quand ça, ça n'a pas de bon sens, Marc-Antoine. Je vois là, des foyers de personnes âgées qui chargent 10-12 000 $ par mois.
Non, ça n'a pas de sens.
Ah, ben ouais, qui va
se vis personnellement. Là, mon père, il était en maison de transition. Là, ouais. Il a été diagnostiqué Alzheimer, puis là, il était rendu...
Ouais, ouais.
Ma mère, elle a fait... de quoi d'exceptionnel, s'en occuper le plus longtemps possible. On l'a placé récemment, puis pendant la période d'évaluation, il était placé à Humanité, là, ici. Là.
C'est ça. Puis c'est pas gratuit, ça? Non,
Ils nous l'ont offert là, comme option, là, parce que ça semble plus alléchant. Mais là, avec les soins qu'il avait besoin, c'était 9 000 $ par mois.
9 000 $ Je ne sais pas si tu le connais, mais je ne le nommerai pas. Je sais qu'il nous écoute une fois de temps en temps, là, mais c'est un gars qui a fait un anévrisme au cerveau dans la quarantaine. Puis aujourd'hui, il est paralysé. Lui, il a fait un anévrisme croisé. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais bref. Je pense qu'il est paralysé du bras droit puis de la jambe gauche. Quelque chose du genre. Puis lui, c'était pas quelqu'un qui avait une grosse fortune. Donc, du jour au lendemain, il peut plus travailler, puis l'aide sociale peut pas l'aider à subvenir à ses besoins. Fait qu'il est dans un CHSLD, dans la quarantaine, puis c'est la curatelle publique qui s'occupe de ses affaires.
Ouais.
Ouf. Hey, c'est mal à mancher, là.
Puis puis dans certains cas, même, il n'y a pas nécessairement d'option. Tu sais, si la personne qui se fait placer, entre autres, je pense à une des choses qui est fréquente, c'est l'errance intrusive. Là,
ouais.
Donc, l'errance intrusive est acceptée dans presque aucune résidence privée. Là. Ça fait que dans notre cas, nous, on avait le choix entre 9 000 ou le public.
Bon.
Tu sais, il n'y a rien entre les deux, là, ou presque. Là, t'sais, ça fait que c'est quand même des situations. Ça va arriver plus fréquemment,
c'est des défis.
Ça fait que, tu sais, je reviens un petit peu à mon, À mon sujet, deux petites considérations, puis un retour à la conclusion. Je l'ai mentionné il y a deux semaines. N'oubliez pas, quand il y a changement de propriété, des fois, on s'approche de son milieu de travail. Si on s'approche de plus de 40 km, il y a un crédit d'impôt, il y a un crédit d'impôt pour ça. Après ça, autre chose sur aller chercher du conseil. Si vous avez une maison et un chalet, puis vous vendez une des propriétés, bien là, il y a des questions à se poser. Il y a l'exonération sur la résidence principale, qui est une résidence principale qu'on désigne nous-mêmes. Donc là, il faut être bien guidé, prendre la bonne décision. Est-ce qu'on prend la facture d'impôt puis qu'on garde l'exonération sur le chalet, par exemple, ou on prend l'exonération sur la maison, puis par défaut, les années de double détention, là, c'est un petit peu moins simple que ça, mais les années de double détention, il y aurait de l'impôt plus tard sur le chalet. Ça fait que, il y a des questions à se poser comme il faut sur lesquelles être bien guidé. Mais l'important à retenir de tout ça, aujourd'hui, je voulais juste amener des éléments de réflexion, de par comment on construit une indépendance financière, les petites erreurs qu'on peut faire. Puis l'important de tout ça, c'est si vous planifiez changer de propriété, ayez une bonne rencontre, un bon processus avec un planificateur financier de confiance, puis pour optimiser cette décision-là d'un point de vue financier.
Suppose, bon, avec Marc-Antoine Reid, on ne se trompe pas, là, t'es inscrit à tous les endroits où tu dois être inscrit pour être légal, mais pour monsieur et madame tout le monde, mettons que Max, il veut un planificateur financier, comment il peut voir si tu es vraiment un planificateur financier, si tu es reconnu, si... C'est quoi? Y a-tu...
Ben, planificateur financier, c'est un titre professionnel. Ouais. Fait que la personne n'a pas le droit de s'afficher. Là,
Il peut-tu aller sur le site des planificateurs financiers pour vérifier si, mettons, Jean-François Tremblay est un planificateur financier?
Absolument, absolument. Donc, moi, ce que je recommande, assurément, ça met peut-être un peu de pression pour ceux qui ne le sont pas, là, mais je dis ça en tout respect, c'est consulter un planificateur financier parce que qui utilise l'approche de planification financière, une approche globale, puis tout ça qui va aider vraiment la personne à atteindre ses objectifs. Puis aussi vérifier tout le temps là, sur le site de l'AMF. Vous pouvez facilement vérifier si quelqu'un est vraiment inscrit puis en règle là, pour vous guider
fait
aussi.
Fait que la stratégie. Sinon, si on veut te rejoindre, Marc-Antoine Reid?
Facile à rejoindre. On a un numéro sans frais qui illustre bien le travail qu'on fait avec chacun de nos clients. 833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler équipe Marc-Antoine Reid, R-E-I-D. Vous allez tomber sur notre site Internet où est-ce que c'est facile de prendre contact. Ou tout simplement réécouter cette chronique puis les dernières. Il reste quand même un bon bout de temps sur votre site qui est bien fait.
Le au blvd.fm.
Merci beaucoup, Marc-Antoine.
Merci à vous.
Max, avant de te laisser partir pour ton émission qui va débuter dans quelques minutes, il y a une panne monstre là, sur Internet.
Oui, c'est depuis tôt ce matin. Puis moi, je pensais que le problème était ici. Fait que là, j'harcelais notre directeur technique, JS. Puis là, j'ai envoyé, voyons, il n'y a aucun site qui marche sur mon ordi. Qu'est-ce qui se passe? Puis il m'a écrit que c'est Cloudflare qui était le problème. Puis Cloudflare gère 70% des DNS sur le web. Fait que, mettons qu'on parle un langage que tout le monde va comprendre, là, y a beaucoup de sites qui sont pas accessibles présentement parce que le serveur, le domaine, je suis pas un professionnel de l'informatique, mais est géré par Cloudflare. Fait que si Cloudflare est down, ben, il n'y a rien qui marche. Fait que Twitter a des problèmes, ChatGPT, ça a l'air. Nous autres, on ne reçoit pas nos textos présentement parce que notre système de textos est vraisemblablement géré par Cloudflare.
Tout ce que je veux savoir, c'est ma carte de débit va-t-il fonctionner?
Normalement, oui.
Ma carte de crédit va-t-il fonctionner?
Normalement, oui. Pornhub, je ne sais pas, par exemple.
Tu peux aller te dépenser.
Ça allait bien jusqu'à temps que tu le prononces.
Ouais, c'est ça.
Ça va être une très mauvaise fin de soirée.
On voit ce qu'il fait de ses soirées après-midi.
Oui, célibataire, Max.
C'est ça.
Il a le droit. Ben, en fait, bon, tout le monde a le droit.
Ben oui.
Merci, Max. À tantôt. 418-971-1021. 418-971, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. C'est par messagerie texte.
Marceau le matin. Marceau le matin.